Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes courtes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap, chiffon,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme qui a fondé un véritable empire de la mode qui prône le savoir-faire français un peu partout dans le monde. Sophie Méchali a créé Paul & Joe il y a 23 ans déjà et a su imposer un style rétro-romantique. Sa signature, les imprimés et les couleurs. Bonjour Sophie.
Bonjour Valérie.
Il est assez difficile de résumer ton parcours tant il est rempli, mais très fidèle à ta ligne de conduite en fait. Une mode libre qui n'écoute pas vraiment les tendances. Alors c'est quoi l'allure de la femme Paul & Joe en 2020?
Alors 2020, nouvelle décennie, nouvelle décade et plein de beaux projets et du positif avant tout. La femme Paul & Joe, indépendante, libre, vraie, généreuse et aimante.
Tout ce qu'on prône dans Chiffon.
Exactement.
On était faites pour se rencontrer.
Absolument, Valérie.
Comment est né Paul & Joe ?
Paul & Joe, c'est l'histoire de mes enfants, d'abord, Paul et Joseph. Donc, le nom vient de mes enfants. 95, année cruciale pour moi. Je travaille pour l'entreprise familiale pendant des années avec mon père, ma mère, qui avait monté l'affaire de chemise. Le garage dans les années 80-90, qui a été une très très belle entreprise. Maman créatrice, entrepreneuse, fonceuse, drôle, belle, généreuse aussi. Papa plutôt homme d'affaires, conservateur, discipline, raide. Ouais. Et très bel apprentissage, très bonne école. La rigueur, mais surtout l'invention, mais surtout la curiosité avec maman qui était une femme extrêmement ambitieuse dans le bon sens du terme. Beaucoup d'amour, beaucoup de recherche, beaucoup de curiosité, beaucoup d'écoute et l'envie de créativité, l'envie de différence, l'envie d'innovation. C'est une femme absolument incroyable. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce qu'elle nous a quittés il y a un an. Et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et beaucoup appris et beaucoup donné surtout le sens de l'envie d'y aller et nos limites. Mais toujours dans la droiture et dans le respect.
Qu'est-ce qu'elle t'a transmis, cette maman ?
Maman m'a transmis le sens de la joie, du travail dans le sourire, du travail dans le partage, du partage en général et du fait aussi que... transmettre la passion, transmettre l'envie de donner aux gens, de se donner pour toi, mais d'une façon où il faut que toi, de ton côté, tu sois vraiment dans le don de soi aussi. C'est pas un sens unique, c'est un échange, c'est un partage. Et le partage aussi de la passion et les yeux qui brillent tout le temps. Maman avait les yeux brillants tout le temps et ce grand sourire.
Comme toi.
Ah, merci.
Alors, j'ai dit en préparant cette interview que ton ambition première, c'était pas du prêt-à-porter féminin, mais c'était plutôt de l'homme.
Ouais. Écoute, j'étais entourée d'hommes depuis petite, deux frères. Je suis au milieu, moi, je suis la tranche de salami dans le sandwich. Un grand frère, un petit frère, un papa. Un papa, encore une fois, synonyme de discipline, de beaucoup de dureté, beaucoup de Aussi une éducation très old school avec beaucoup de machisme, un limite misogynie.
C'est la génération.
Oui, pas que. C'est l'éducation nord-africaine, le rôle de l'homme, le chef de famille, bien sûr, mais surtout le côté bossy de l'homme, bien que maman ait beaucoup travaillé avec lui. Donc, c'était assez antinomique, assez paradoxal. Et donc, cette envie de faire plaisir à mes frères. Déjà, à cette époque, j'avais 28 ans quand j'ai démarré Paul & Joe. Le démarrage de l'affaire a eu lieu lorsque mes parents ont arrêté leur entreprise, en fait. Et j'étais très, très impliquée. J'adorais ce que je faisais. Et j'adorais bosser avec maman, surtout. Bon, il faut dire que la dureté de papa aussi dans l'affaire, d'un point de vue gestion, d'un point de vue management, parce que j'étais touche à tout, m'a donné aussi beaucoup de positif, dans la mesure où j'ai appris les deals, j'ai appris à gérer l'affaire, à dealer avec les clients, à avoir une certaine
poigne,
c'est sûr. Mais maman l'avait aussi dans les négos aussi avec les fournisseurs, mais avec toujours beaucoup de charme.
Mais comment t'es passée donc de l'univers de l'homme à la femme?
C'est les clients qui m'y ont poussée. Parce que quand j'ai démarré Paul & Joe, la ligne était tellement fantaisiste, colorée. Cet univers de fleurs, comme je l'appelle toujours Happy Days. Quand je pense au Happy Days, je pense aussi à la série, avec le côté chemise imprimée, pantalon slim, blouson.
Blouson de cuir un peu court.
Ouais, c'est ça. Teddy. Vraiment le côté Happy Days de l'histoire de la série qui m'avait beaucoup inspirée à l'époque et que je voyais petite et qui repassait à chaque fois. Et cet univers très coloré, très fleuri, très frais, que j'ai livré très bien à de très, très beaux clients à l'époque, déjà d'emblée, les plus belles vitrines qui venaient à des salons, qu'il n'y a plus maintenant. Le système a tellement changé, mais on y reviendra, j'imagine. Et a fait que donc ces clients m'ont dit mais fais la femme, j'étais absolument contre parce que j'étais déjà dans l'esprit un peu unisexe, je voulais que les nanas viennent se saper chez l'homme, c'était le cas. Et du coup j'ai retranscrit la collection masculine dans des fits féminins avec les mêmes tissus, les mêmes idées de fut de mec, de chemise fitée et de blouson parce que c'était les trois pièces phares et surtout la chemise parce que c'était mon héritage parce que mes parents m'ont appris à travailler la chemise. Et voilà. Et ça a démarré comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ça a été une histoire absolument extraordinaire, une espèce de magie qui s'est opérée autour de cette marque, où en fait, les Français ne pensaient que c'était une marque anglaise ou américaine, pensaient que c'était deux mecs, deux copains qui avaient fondé cette marque. Et les Japonais en sont tombés amoureux d'emblée. J'ai fait les plus belles vitrines de Tokyo, de New York, avec Barney's qui se sont complètement entichés de la marque, les vitrines de Harvey Nichols à Londres, alors que j'ai démarré. Et ma seule priorité, c'était la création, c'était m'amuser. Je m'amusais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était de l'amusement du plaisir dans les créations. Et puis un business qui a tout de suite décollé, quoi.
D'où te vient cette passion pour les imprimés?
Maman, je sais pas. C'est on a toujours été. Moi, j'étais une maman. J'avais une maman très excentrique, très comme je disais, folle de. Déjà de fripe. On faisait toutes les brocantes de Paris dans le 15e. On habitait toutes les vide-greniers, tous les trucs qui servent à rien. Où elle dénichait des espèces de vieux rideaux, des napperons et aussi le linge de maison. Tout ce qui touche à la fantaisie, à l'imprimé, aux objets, aux bibelots, etc. Maman adorait ça. Elle m'a aussi transmis cet amour des objets, des couleurs et de tout ce qui est déjà à l'époque vintage, hein, parce qu'elle s'inspirait beaucoup aussi des tissus d'ameublement des années 50, des vieilles nappes, des rideaux, etc. Et elle a toujours été très, très en couleur, avec toujours des pulls en couleur, le make-up, les cheveux, tout ça, c'était moins un exemple, une muse et beaucoup d'admiration et aucune rivalité. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que je sais que ce n'est pas évident, les rapports mère-fille. Et maman, c'était mon complément, ma meilleure amie, mon exemple et beaucoup de fou rire, quoi.
Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme conseil vestimentaire pour toi quand tu étais jeune fille?
Alors, c'était pas tant maman qui me donnait des conseils vestimentaires, parce que maman, je pouvais faire ce que je voulais, en fait. Je pouvais me saper en micro-short et en crop top. Papa était beaucoup plus... il voulait pas que je sorte habillée n'importe comment jusqu'à l'âge de 15 ans. Moi, j'étais petite, j'étais en robe bon point, smokée, petit manteau anglais de chez Harrods. Papa voyageait beaucoup, donc me ramenait toujours le petit manteau chaque saison, tu sais, en espèce de laine qui grattait
avec le col en velours,
de boutonnage qu'on retrouve dans mes collections. Et j'avais pas le droit de mettre de jean. Hein. T'imagines bien, moi, quand j'avais 15 ans, c'était l'époque de Grise, les 501 taille haute, les Nike aux pieds, les UCLA sweaters qu'on voit absolument partout aujourd'hui. C'est ça qui est drôle, parce que c'est vraiment l'éternel recommencement. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je sortais pas en jupe, mais en espèce de pantacourt, surtout pas en jean. Et moi, j'avais mon sac US quand même, qu'on avait toutes, mon sac plat, et puis j'avais mon jean qui était planqué dans les escaliers. je me changeais, quoi. C'était pas possible, hein, tu vois.
Que penses-tu, justement, tu dis que la mode est un éternel recommencement, tu parlais aussi des salons qui ont changé. Que penses-tu de la mode aujourd'hui ? La mode d'aujourd'hui ?
Oh là là. Malheureusement, je vais dire une chose, la mode aujourd'hui, c'est du junk food pour moi.
Du junk food.
Ouais. C'est l'équivalent d'une junk food, c'est de la junk mode. C'est-à-dire, il n'y a pas de culture, il n'y a plus de valeur du vêtement, du tissu, de la coupe. C'est juste, malheureusement, on est tombé dans une ère où... et plus ça va, plus ça... Et je ne veux pas être l'espèce de contestateur qui va dire que c'était mieux avant, parce que je ne suis pas du tout du style à regarder dans le rétro et à me dire que c'était mieux avant, mais je parle culturellement. On est malheureusement, on va vers une ère du plus rien, quoi. Tout est basé sur l'image, la fille qui porte le vêtement, le nombre de followers et plus rien à voir avec la qualité, avec le savoir-faire, avec la finition, avec le tissu lui-même, avec la coupe. Il y a une perdition de tout ce qui, culturellement, de tout ce qui touche au beau, au bien fait, au beau et bien fait.
Et tout va très vite aussi.
Trop vite.
Quel est ton style, vestimentairement parlant?
Pas loin du tien, finalement. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, mince, c'est incroyable, quoi. Le beau pull bien coupé dans la bonne proportion, le bon fit, le bon jean aussi, le petit foulard là, qui fait la touche, là j'adore tes bijoux aussi. Bon, après moi je ne suis pas en mocassin parce que j'ai du mal à être à place au fond basket et encore pour faire du sport, tu vois. Moi j'aime bien les cowboy boots en général, mais un peu clean, avec le talon bisouté. C'est mon même look depuis toujours.
Parce que alors on inverse, d'habitude c'est l'invité qui se décrit, là toi tu as décrit ma façon d'être habillée.
Parce qu'on a un côté un peu, excuse-moi, de base, un peu éducation, un peu à la bourgeoise. Parce que voilà.
Ah oui, j'ai un petit foulard et des mocassins.
Voilà, d'accord. Mais moi, j'ai eu une éducation vestimentaire un peu bourgeoise. J'ai eu un papa qui ne voulait absolument pas que je m'habille dans mode. J'étais hors mode, mais j'étais pas non plus la fille qui sort de l'église. Tu vois, le côté un peu
comme Claudine et
non, il aurait bien voulu, mais je mélangeais ça. Et moi, j'avais un truc génial.
C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tes collections.
Exactement. C'est que papa est toujours en costume pour aller bosser. Il faisait ses costumes sur mesure chez Smalto. En trois pièces, en tweed, en chevron, en herringbone, tout ce qu'on retrouve maintenant, effectivement. Et moi, j'adorais ces vestes de mec, tu vois, croisées. Donc moi, j'avais mon jean, mon 501, je vais te sortir des photos, si tu veux, je te les donnerai pour les montrer aux gens qui nous écoutent. J'avais mon 501 noir et jean qui se délavait avec le temps, ma ceinture un peu cow-boy, mes boots, justement, un peu cow-boy, mais clean. Parce que moi, quand j'ai eu mon bac, j'avais une obsession. Et c'était le deal avec papa, même si je savais
les tiags.
Les tiags chez Western House, en Python, Tony Lama. Parce qu'il me les fallait, et j'en rêvais, je les voulais. Et je les ai eu, évidemment, parce que bon, il fallait bien une petite carotte, quand même. Et bon, à l'époque, c'était la chemise de mec, manches retroussées, et la veste que je tapais dans le dressing de mon père. Qui était la veste croisée en tweed, en tissu de laine, italien, sublime. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote, c'est qu'il ne venait jamais me chercher à l'école et au lycée. Il est venu me chercher à l'improviste une fois et il m'a chopé avec sa veste sur le dos. Ah, là, j'ai passé la soirée la plus pourrie de ma vie. Mais c'est ma veste, de quel droit? Parce qu'en fait, je la prenais, comme il en avait plein, je la prenais, il ne se rendait pas compte.
Bah oui.
Et je roulais les manches, tu vois, dans la veste.
Canon.
Super épaulée.
Canon.
Double croisé oversize, le jean tailleux de 501 sublime, les cowboy boots, la chemise de mec et rouler carrosse, nos make-up, les cheveux fofolles, c'est bon. Sublime.
Et là,
tu juste peux sublime.
Et là, tu peux te décrire?
Bah là,
ta tenue, bah là, cowboy boots au pied.
Cowboy boots, jean taille haute, pas 501, mais presque. T-shirt de mon fils, garçon infidèle, que j'adore. Tu vois.
Donc toujours un mix.
Et
toujours
cardigan de mec, un peu pourrave. Voilà,
donc t'es fidèle à toi-même?
Ah oui, complètement. Quelle j'ai jamais été très, très mode. J'ai jamais été logo à gogo, très mode. J'ai toujours eu ce côté pseudo-classique et j'aime bien la base. Ah, tiens, ah, on y vient.
Ça me rappelle un livre.
D'une garde-robe où tu as des essentiels. Le trench, le jean, la chemise blanche, la veste de mec, la veste croisée. Et puis, toujours les bons sous-vêtements aussi parce que j'aime bien les dessous chics qu'on ne voit pas parce que ça me fait du bien.
Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing? C'est un rapport cordial?
Je t'aime moi non plus. Enfin, l'idée, c'est que mon dressing, bon, d'abord, j'y prends énormément soin. On ira le voir si tu veux. J'ai mes basiques qui sont là, qui sont mes chouchous, qui sont indécrottables. J'ai mes toujours très bien rangés. Et je renouvelle aussi. Donc, j'ai des pièces auxquelles je suis attachée, que j'ai depuis 25 ans et qui seront toujours là et puis qui correspondent à des étapes de ma vie. Et puis, ça bouge, ça change, mais c'est un peu, je dirais, variation sur le même thème. Toujours rayé.
Ouais, t'es fidèle à ton style.
Complètement. Mmh. Ouais.
Tu passes plus de temps dans ton dressing ou dans ta salle de bain?
Non, ni l'un ni l'autre. Je fais très vite dans la salle de bain. Je n'aime pas passer des heures. En fait, je suis assez, je ne vais pas dire impatiente, mais j'aime pas passer du temps à des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc, je vais à l'essentiel.
Je prends
vite ma douche. Je me make-up en 2 minutes et c'est toujours la même chose. Le mascara, un petit crayon, enfin les bons produits de base pharmaceutiques, hein, parce que je ne prends pas du tout de produits de marque en ce qui concerne le skincare, parce que je suis les bons conseils de ma dermato, donc c'est du bioderma, de la veine. Au niveau du make-up, c'est un coup de mascara, Paul & Joe évidemment, et puis un petit blush. Cheveux... Bon, coiffeur pour les couper de temps en temps. Je sors de la douche, je me mets un truc, parce que j'ai les cheveux comme toi, un peu, tu vois, un peu cheveux de paille.
Oui, hélas, oui.
Non, mais bon, c'est
mes cheveux, ma bataille.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Parce que
c'est un côté naturel.
Ouais, puis je mets un petit coup de... Regarde, ça sent super bon.
Je confirme, oui. Je l'ai senti quand t'es arrivée.
Pour les pointes sèches, et puis, il faut y aller comme ça. C'est pas beau d'être trop apprêtée, trop maquillée, trop...
Et ça t'arrive jamais de te prendre la tête quand même si t'as un événement, un truc hyper mondain ou...
Non.
Non, jamais.
Non, parce que... Non, surtout pas. Tu sais quoi? Quand on se prend la tête pour un événement, finalement, on arrive, on n'est pas soi-même. Le plus important, c'est ce qu'on dégage avant de ce qu'on porte, quoi. Et puis, in fine, t'arrives toujours avec la même robe... souvent noir, sublime, un peu fourreau ou pas, un peu plutôt long.
Ouais, on revient à l'essentiel. Enfin,
ouais,
à chaque fois. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas,
qu'elle le fasse pas?
Toi, tu ne dis pas oser?
Non, pas du tout. Il faut qu'elle ait envie, qu'elle ait jusqu'au bout de ce qu'elle a envie. Et si elle n'est pas bien, et si ça l'angoisse, et si ça la stresse, du coup, ça va se voir sur son visage. Et avant tout, quand on voit quelqu'un, on voit son visage, on ne voit pas ce qu'elle porte. Et voilà.
Qu'est-ce que tu regardes en premier, d'ailleurs, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois?
L'allure. Je regarde pas les vêtements, je regarde l'allure. Je suis pas du tout... je vais pas les regarder. Après, comme je suis assez...
Tu scannes quand
vive.
Même. Tu peux pas le trahir avec tes yeux.
Quoi?
Tu peux pas le trahir avec
non,
tes yeux.
Non, je regarde l'allure et après, il y a des trucs...
tu scannes. Ouais. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais? Mais alors, no way. Hein.
Les micro-robes, pas possible. Micro-robes moulantes. Après, tu vois, c'est une très bonne question parce que il y a des choses sur lesquelles ou pour lesquelles je disais jamais et aujourd'hui je dis ok. Et c'est le propre de la mode.
Donc l'année prochaine, micro-robes.
Non, je pense pas. Encore moins maintenant. Mais je parle par exemple des vernis à ongles, de certaines couleurs. Je me disais non, pas du tout. Et là, du coup, j'y vais. Regarde la preuve.
T'as un vernis bleu ciel.
Bleu océan, Caraïbe.
Ouais. De la couleur de tes yeux.
Merci.
Est-ce que tu as des tu t'es mis des interdits vestimentaires avec l'âge?
Non.
Passer 40 ans, plus de mini-jupe?
Non, pas du tout. Mais non, j'en mettais pas
déjà
avant.
Qu'est-ce que tu penses de ces injonctions avec l'âge?
Non, il faut pas. Il faut pas. Et puis encore une fois, être bien dans ses vêtements, c'est être bien quand on se regarde dans la glace. Donc, il n'y a pas d'interdit, c'est assumé, surtout. Mm-hmm. T'es en mini-jupe, t'as 50 balais, t'as de belles guiboles, et ça te va, et ça se voit sur ton visage, mais vas-y, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Est-ce que l'accessoire est important pour toi?
Oui. Oui. Oui.
Alors, par accessoire, j'entends sac, foulard, ceinture, mais aussi bijoux.
Ouais, bijoux, j'aime bien.
Ouais. T'as des jolis colliers. Ouais. Bague, discrète.
Ouais. Très discret ou beaucoup moins discret. C'est le très minimaliste ou carrément le très gros machin.
Mm-hmm. T'es plutôt du genre à avoir un heat bag ou un tote bag?
J'ai beaucoup de sacs et j'ai des sacs très timeless en fait. Mm-hmm. Pas mode du tout, mm-hmm. mais en même temps indémodable, je pense.
Des intemporels.
Ouais, tout à fait.
Et dedans, tu trimbales ta vie ou
C'est de grand bordel. C'est une catastrophe. Et en plus, comme j'en change de temps en temps et que j'ai la flemme de vider, de transvaser les choses d'un sac à l'autre, à chaque fois, je suis là chercher ma carte d'identité. Il y a des pièces de monnaie, des sucrètes que j'ai tout le temps parce que je prends des sucrètes. Alors, d'un sac à l'autre, c'est une catastrophe. Franchement, c'est des devises, des chewing-gums.
Des devises. Ah non, des devises de monnaie étrangère.
Bah oui.
Ah oui, moi j'étais partie sur des devises écrites sur un carnet. Cette année, j'arrête de fumer.
Ah non,
cette année,
certainement pas. Certainement pas. Ah non.
Quel est ton dernier achat, vestimentairement parlant?
Ah, une robe Vitakin à Miami. Une robe folk roumaine, très longue. Mais en fait, c'est roumain qui va dans le côté plutôt nord-africain. Très joli.
Et ton prochain achat, est-ce que tu sais déjà?
Je ne sais pas. Je ne prévois pas.
Tu fonctionnes comment?
Mais je suis plus objet, je suis plus maison. Mmh. Actuellement, je suis plus dans le côté, comme tu peux le remarquer ici, coup de cœur, petite porcelaine, petit objet, bougie.
Ouais. À ton image.
Un peu, ouais.
Quand tu... Quand tu fais les boutiques, tu vas... Enfin, pardon, quand tu fais les boutiques, je dis n'importe quoi. Quand tu crées...
Ça m'arrive aussi et j'adore ça.
Ouais, tu vas dans... Où sont tes spots alors? Du coup, je dérive un petit peu.
À Paris, à Rive Gauche, moi j'adore le Bon Marché, évidemment. Mmh. Moi, c'est pas le grand scoop. Mais j'aime bien les petites boutiques de quartier aussi. Il y en a de moins en moins, malheureusement, qui touchent à la lingerie... J'adore Sabia Rosa, rue des Saint-Pères, qui fait une lingerie absolument incroyable. La même depuis 40 ans. Mm-hmm. Mais le petit top en satin de soie, avec cette magnifique dentelle de Calais, le petit shorty, la petite nuisette dans des imprimés que tu peux choisir, etc. Toutes les boutiques qui ont effectivement le sens du fait main, de la tradition, etc. Que ce soit vestimentaire ou autre, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça peut toucher l'alimentation, ça peut toucher... tout ce qui est artisanal. Je pense à mon fromager, je ne sais pas pourquoi, au top de Blue.
On parle de fringues, on parle de fromage.
Bah parce qu'il y a quatre hommes à côté, comme j'adore le fromage, où il y a tous les fromages les plus dingues de la terre.
La Barthélémy, pas très loin.
Ah, moi, je préfère quatre hommes. Il y a une autre école, rue de Sèvres, c'est pas loin non plus. Et là, c'est, tu passes, là, je peux goûter, j'ai dîné. Et puis, voilà, tout ce qui a trait, en fait, à la tradition, à ce qui est la tradition du pays où on est, la tradition française. En Italie, par exemple, quand j'ai la chance de pouvoir aller à Rome ou à Florence, j'essaie de trouver les petites maisons où tu as les petites italiennes qui brodent encore à la main pour faire les trousseaux de bébés, etc. Il y en a très peu, de moins en moins, mais il y en a encore. Il faut les connaître.
Justement, où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes créations?
Ah ben, c'est ça. C'est tout ce qui touche à l'artisanal, tout ce qui touche à... là, j'ai une boutique à New York, justement. J'y étais, j'ai passé quelques jours entre Noël et Jour de l'An. De boutiques, bon, après, c'est facile, un peu générique, il y a vintage. Mais il y a des boutiques qui ont des choix de robes années 20 absolument incroyables. Là, comme je suis très aussi au niveau des inspi aussi d'une dernière série que j'ai vue, que j'ai dévorée.
Oui, j'ai l'impression que ça te marque beaucoup, les séries.
D'Anton Abbey, où tu vois toutes ces... toutes ces entre les années 20, années folles, art déco, art nouveau. Et en ce moment, je suis très inspirée par toutes ces robes absolument sublimes.
Donc, on va retrouver ça dans la prochaine collection.
Et donc, je rebondis sur cette boutique qui est spécialisée dans ces robes années 20 et qui loue énormément pour les red carpet. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne fait ce genre de robe. Où j'ai trouvé aussi un espèce de petit boléro en plume d'autruche énorme, avec des pompons partout et tout. Et là, j'ai envie de ça énormément aujourd'hui, mais depuis toujours. Hein. Donc, mes inspis, c'est vraiment, encore une fois, les inspirations du linge de maison, des broderies sur les draps, d'une façon qu'on ne fait plus aujourd'hui avec tous ces jours parisiens, avec ces entre-deux de dentelle, etc., que j'essaye de remettre au goût du jour et de trouver les artisans pour le faire aujourd'hui. Mmh. Parce que ça coûte aujourd'hui, plus personne ne le fait.
C'est ça.
Et si c'est le fait, c'est fait main. Et si c'est fait main, c'est très cher. Et si c'est très cher, les gens ne comprennent pas. Mmh. Et c'est comme donner du caviar au cochon. Mmh. Excuse-moi, mais il faut les trouver, les clientes aujourd'hui qui disent « Ah, alors attends, mais oui, mais c'est fait main. Alors oui, mais c'est un peu, c'est vrai que ça coûte, mais en même temps, quel travail ?» Les gens ne savent pas.
C'est une éducation.
Complètement. Mm-hmm. Complètement. Et j'aimerais qu'on revienne à cette éducation, bon sang. Mais comment ? Valérie, dis-moi.
Bonne question, bonne question. C'est pour ça qu'il y a chiffon aussi, pour essayer de comprendre notre rapport à la mode. Oui. Quelle est ta définition de l'élégance ?
L'élégance, c'est le respect. C'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de se comporter, c'est une manière de se tenir, de s'exprimer.
Donc, ça n'a rien à voir avec les fringues ?
Non. Finalement, non. Tu peux avoir des femmes très élégantes qui ne sont pas forcément hyper bien sapées, mmh. ou qui n'ont pas forcément des marques, des vêtements de marque ou des codes. Marques connues et qui sont extrêmement élégantes. Et tu peux avoir des femmes avec des marques de la tête aux pieds qui sont une vulgarité sans nom.
Alors justement,
j'invente rien. Hein.
Oui, ça revient souvent dans chiffon. C'est vrai.
Bon,
mais c'est ce que je pense aussi.
Bon, écoute, parfait.
Bon, on s'en fiche de ce que je pense. Mais
non,
mais
on s'en fiche pas parce que j'adore ton style, Valérie.
Ouais, je suis très douchée, vraiment. Ouais,
vraiment, vraiment.
Alors justement,
on a beaucoup de points communs sur, tu vois,
les chaussettes en cachemire de Calzedonia.
Non, déjà, mais j'aime beaucoup ton style parce que t'es toi, parce que c'est juste, hein, c'est bien dosé.
Je vais rougir.
Et la mode, c'est surtout une question de dosage.
Alors, j'ai une question, je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure, donc, je sais que Paul & Joe est vendu un peu partout dans le monde, je l'ai dit en introduction. Tu parlais de ta boutique à New York, il y a aussi des boutiques au Japon.
Oui, Japon,
c'est
un pays qui est très...
Est-ce que les demandes des femmes, des clientes, sont différentes d'un pays à l'autre ?
Pas du tout, c'est exactement c'est un bon produit. Comme on a une marque, en fait, à forte identité, avec un vrai parti pris, les best-sellers et les modèles qu'on retrouve souvent dans les têtes de liste des hit parades de vente, hit parade quoi.
Hit parade top 50.
Ouais. Ça c'est temps après. Oui, sont souvent les mêmes. Mm-hmm. Et c'est même pas une question de morphologie, c'est vraiment une question de style, une question d'envie, une question de désirabilité et d'originalité aussi.
Donc la cliente Paul & Joe a un truc en plus.
Exact.
Voilà. Une seule réponse. Si tu étais une couleur.
Bleu.
Lequel ?
Bleu marine.
Si tu étais une forme de pantalon.
501, jeans.
Si tu étais une chaussure.
Cowboy boots.
Ah bah oui, évidemment. Si tu étais une matière.
Cachemire.
Si tu étais un vêtement, tout simplement, un seul vêtement.
Une chemise.
Si tu étais un sous-vêtement.
Un top en soie.
Si tu étais un accessoire.
Un sac.
Si tu étais une héroïne.
Simone Veil.
Ah, on en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Un adjectif qui te caractérise.
Pétillante.
Ça, c'est bien vrai. Et une dernière question. Normalement, je ne pose jamais de questions beauté, ouais. Mais tu as une collection de rouge à lèvres.
Ouais.
Pourquoi une tête de chat ?
Parce que je suis...
C'est extraordinaire, ça, sur les rouges à lèvres.
Ça a été une histoire extraordinaire parce que je suis amoureuse des chats depuis ma toute petite enfance, parce que j'ai deux magnifiques chats. Et que ça a été la chance de travailler avec une entreprise japonaise qui adore Paul & Joe depuis maintenant 17 ans, avec qui je travaille depuis 17 ans, et qui ne cesse d'essayer de me faire plaisir. Voilà. Et comme quand il y a du plaisir, il y a forcément du succès.
Mais il est tellement joli, elle est tellement jolie, cette petite tête de chat, qu'on n'a pas envie de l'utiliser, en fait. Elle est
sculptée, l'idée, justement, c'est...
Aller voir ce que fait Paul & Joe.
Ouais, exactement. Et puis voilà. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi, parce que en plus, les produits sont vraiment, vraiment de super qualité. Et il y a une petite fragrance dans chaque produit qui est l'eau de fleur d'oranger. Pourquoi l'eau de fleur d'oranger ? Parce que ça
pèse.
Et aussi parce que c'est l'odeur de mon enfance, puisque mes parents sont d'origine tunisienne et que c'était les gâteaux à base de fleurs d'oranger et de miel. Voilà.
Que nous prépare Paul & Joe pour 2020 ?
Ouf, plein de surprises. Plein de surprises. On refait complètement le showroom, donc on est en plein travaux. J'ai des projets magnifiques sur la boutique Rive Gauche avec un nouvel écrin.
Qui est à quelle adresse ?
64 rue des Saints-Pères, et avec un lancement de vaisselle et de tout ce qui est ce qui tient à la maison. Vaisselle, linge de maison, objets, plats, mugs, assiettes, pour un peu habiller nos tables, comme on s'habille. Avec un mix, un match de d'assiettes, de plats qu'on pourra accordonner ou à dépareiller.
Ça sort quand ?
Ça sortira pour le mois de juillet bientôt là.
Merci infiniment Sophie.
C'est fini déjà ?
Oui, c'est fini.
Non.
Oui, ça passe très vite.
Bon, mais c'était un plaisir, Valérie.
Merci à toi.
C'est passé très, très vite, vraiment.
Je tiens à remercier aussi le magazine Grazia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Ouais.